Chers amis, je vais parler de mon nouveau livre.
C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment.
Moi j'ai lu celui-là, Qu'est-ce qu'on en a à péter, moi?
Le savoir est une arme. Tu sors, t'observes.
You always want to aim for monopoly. And you want to always avoid competition.
On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
Le mimétisme qui est déjà présent chez les animaux prend chez les hommes une forme, une intensité particulière.
Bonjour à tous. Aujourd'hui on va résumer le livre The Power of Full Engagement de Tony Schwartz, qui est vraiment la référence dans le domaine. Ça va nous apprendre à gérer mieux notre énergie, comment faire pour en avoir plus. C'est un livre qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup apporté, et qui je pense va vous apporter énormément aussi. Donc voilà, on va résumer les différentes idées de ce livre. Aujourd'hui le podcast prend une forme un petit peu différente, je vais vraiment séparer le podcast en différentes parties, en 7 parties exactement. On va voir d'abord la théorie générale de l'auteur sur ce que c'est que l'énergie, pourquoi c'est important. Ensuite on va voir pourquoi l'énergie est quelque chose qu'il faut faire oscillée, et que la société nous amène à ne pas faire oscillée, à utiliser de manière trop linéaire. On expliquera ça et on verra les solutions de manière générale. Et ensuite, on verra comment améliorer les 4 dimensions de notre énergie, c'est-à-dire l'énergie physique à travers le sport et l'alimentation, l'énergie mentale à travers les pauses mentales et à travers la pensée positive. Ensuite, on verra comment gérer la 3e forme d'énergie, qui est l'énergie émotionnelle, à travers la flexibilité, les relations et l'isolement. Et enfin, la 4e forme d'énergie, qui est l'énergie spirituelle, où on verra qu'il faut cultiver le sens, le pourquoi de nos actions et une certaine forme d'authenticité. Et enfin, dans la toute dernière partie, on verra un rapide guide pour former des habitudes et des rituels qui nous permettent d'augmenter notre énergie sur le long terme. Donc on commence tout de suite par la vision générale de l'énergie selon l'auteur. Ce que nous dit Tony Schwartz, c'est que l'énergie est beaucoup plus importante pour notre productivité que le temps. Souvent, il faut travailler moins longtemps pour produire beaucoup plus. Et ça, c'est toute l'idée générale du livre. On verra plusieurs cas de figure où des gens, des entrepreneurs par exemple, vont faire des sacrifices de temps pour gagner d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, qui nous semblent improductives et peu efficaces, mais qui en fait le sont énormément. Par exemple, prendre une pause pour aller faire du sport au milieu de sa journée, décider de consacrer une journée de son week-end à donner des cours de langue à des personnes autour de nous, ou passer du temps avec sa famille, tous ces trucs-là en fait sont des choses qui permettent d'être plus productif et d'avoir plus d'énergie. Ils nous permettent d'être plus productifs parce qu'ils nous permettent d'être plus énergisés, d'être capables de faire plus d'efforts de manière plus intense pendant les moments où on travaille. C'est toute la théorie du livre et on va l'expliquer dans différentes dimensions. Ce que nous dit l'auteur aussi, c'est qu'on perd notre énergie, notre niveau général d'énergie, de deux manières. Premièrement parce qu'on l'utilise trop, mais aussi parce qu'on l'utilise pas assez. Souvent on va sous-utiliser certaines formes d'énergie, on va pas s'exposer à un stress, et c'est important de s'exposer parfois à du stress pour que notre niveau d'énergie se répare et surcompense en nous fournissant un plus haut niveau d'énergie, un petit peu comme dans le cas de la musculation, où on va s'exposer à un effort, à un stress pour notre corps, et ensuite notre corps va surcompenser en se préparant à un stress supérieur. C'est le concept d'inoculation de stress qu'on a un peu vu dans le résumé du livre Antifragile, et il faut effectivement, avant de réfléchir à comment récupérer son énergie, eh bien apprendre à la dépenser entièrement. En fait, ce que nous dit l'auteur, c'est qu'on dépense notre énergie beaucoup trop dans deux domaines. Dans le domaine mental, quand on va vouloir régler plein de problèmes différents et penser à plein de choses différentes en même temps. Et aussi dans le domaine émotionnel, dans le sens où on va devoir gérer beaucoup trop de stress et beaucoup trop de situations relationnelles compliquées. Dans ces deux domaines-là, on dépense trop notre énergie. Mais il y a deux domaines où on dépense en général trop peu notre énergie. C'est l'énergie physique, donc à travers le sport, et l'énergie spirituelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de pourquoi en général, et on ne se dépense pas à ce niveau-là non plus. Et il faut apprendre eh bien, à moins dépenser son énergie mentale, moins dépenser son énergie émotionnelle, et puis aussi plus dépenser d'énergie physique et plus dépenser d'énergie spirituelle pour la plupart des gens aujourd'hui. Donc voilà ces 4 sources d'énergie, on va en parler un peu plus tard, donc l'énergie physique, qui se traduit à travers le sport et le repos physique et l'alimentation, l'énergie émotionnelle, qui est plus liée aux relations et à l'isolement qu'on va avoir par rapport aux autres, l'énergie mentale, qui est liée aux pensées positives et aux pauses mentales, et l'énergie spirituelle, qui est liée au pourquoi et à notre authenticité et notre honnêteté. Avant de parler de ça, avant de parler de ces quatre dimensions de l'énergie, on va évoquer un point important de ce que c'est que l'énergie et de son caractère oscillatoire et pourquoi est-ce que on doit à tout prix éviter la linéarité qu'on nous impose généralement dans le travail et dans la société de manière générale. Ce que nous dit Tony Schwartz, c'est que nous avons des cycles naturels qui sont les cycles ultradiens, qui durent environ 90 minutes, et qui se retrouvent dans nos rêves. Vous savez peut-être que dans le sommeil, on a des phases de basse fréquence et de haute fréquence d'activité cérébrale, et toutes les 90 minutes ou toutes les 120 minutes, on a ces cycles qui se répètent au cours de la nuit. Et bien, ce que nous dit l'auteur, c'est que c'est pareil durant la journée, on a ces cycles-là. Et en fait, on doit se calquer dans notre manière de travailler sur ces cycles-là et ne jamais travailler plus de 90 minutes, ne jamais être focus plus longtemps que ça. Parce qu'en fait, ça nous use, ça nous fatigue, et c'est très compliqué de récupérer après des dépenses d'énergie plus longues que ça. En fait, l'être humain est fait pour osciller entre l'effort et le repos. Et ce qu'il faut faire, c'est pas apprendre à travailler plus longtemps, mais apprendre à travailler de manière plus intense dans la phase d'effort, de 90 à 120 minutes, et apprendre à se reposer de manière plus intense, plus profonde, dans la phase de repos, qui peut durer 90 secondes, comme 10 minutes, 15 minutes, ou 30 minutes, si on en a la possibilité. L'erreur à pas faire, c'est l'erreur de la linéarité. La linéarité, c'est quelque chose qui nous est imposé aujourd'hui, souvent dans le travail, parce qu'on se calque sur le rythme des machines. Le travail de la société moderne nous éloigne au maximum de cette oscillation et nous force à, en quelque sorte, apprendre à travailler à la chaîne de manière linéaire sans jamais s'arrêter, pour s'adapter même quand on n'a pas un travail dans une industrie où il faut absolument s'adapter aux machines, même quand on a un travail créatif, malheureusement. Dans ce cas, effectivement, l'oscillation est très très importante. Et ce qui se passe, c'est que souvent, parce qu'on manque d'oscillation, eh bien, on la crée artificiellement. On se tourne souvent vers des drogues pour forcer cette oscillation. Ça va être le café ou la cocaïne même, dans les cas extrêmes, pour nous stimuler davantage et nous forcer à sortir de cette linéarité et avoir des pics vers le haut. Et puis pour nous reposer, on va avoir d'autres drogues comme le cannabis pour nous forcer à avoir des pics un peu plus bas et aller un peu plus en profondeur. Il y a d'autres stimulants artificiels qu'on utilise pour créer cette oscillation artificiellement, hein. Ça va être comme des choses comme le sucre, qui est aussi un stimulant qui a un aspect addictif. Et malheureusement, on utilise souvent des mauvais stimulants qui ont beaucoup d'effets négatifs sur notre santé, et qui en fait ne permettent pas de vraiment apprendre à gérer notre énergie sur le long terme. Il y a d'autres formes, il y a d'autres manières de gérer son énergie, comme d'autres stimulants intéressants, comme l'eau, simplement, qui est une source d'énergie, un stimulant qui nous fait avoir plus d'énergie et qui est énormément sous-estimé. Bon, on parlera un peu après de la gestion de cette énergie physique. Il y a quelque chose qu'on utilise aussi souvent pour renouveler notre énergie de manière artificielle, c'est la télévision. Et ce que nous dit Tony Schwartz, c'est que la télévision, c'est un peu la junk food du renouvellement de l'énergie, parce qu'en même temps, elle peut nous réveiller un peu, mais en même temps, elle nous cause de l'anxiété. Il faut éviter ça et préférer, pour se renouveler, d'autres méthodes qu'on va voir maintenant. Pour résumer les erreurs qu'on fait, qui nous éloignent de l'oscillation et qui nous rendent trop linéaires, pour résumer les trois grandes erreurs qu'on fait dans le travail et dans la gestion de l'énergie, mais il faut se rappeler de ces trois points. C'est qu'il ne faut pas travailler trop longtemps, sans pause, et trop tard. En général, travailler longtemps, sans pause, et tard, eh bien, c'est la recette de l'échec et c'est la recette d'une mauvaise énergie. Trop longtemps parce que c'est ne pas respecter notre cycle ultradien. Travailler sans pause, c'est pas bien parce que c'est ne pas respecter l'oscillation énergétique naturelle vers laquelle on tend, comme tous les êtres vivants. Et travailler trop tard aussi, c'est ne pas respecter le rythme circadien qui veut qu'on soit fait plutôt pour vivre la journée et puis dormir la nuit, et qu'on a plus d'énergie, plus d'efficacité quand on est sur ce rythme naturel-là. Donc voilà les idées principales pour comprendre les risques de la linéarité et les bienfaits de l'oscillation. Maintenant, on va s'intéresser aux quatre dimensions de l'énergie. L'énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et comment améliorer ces quatre énergies-là, en commençant par l'énergie physique. La gestion de l'énergie physique, elle passe par trois points différents qui sont le sport, le repos et l'alimentation. Alors, sur l'alimentation, on a vu que ce qui était sous-estimé en tant que stimulant énergétique, c'était l'eau. Souvent, dans des moments où on pense avoir faim ou avoir envie de sucre, eh bien, l'eau nous suffit largement. Évidemment, il faut éviter les sodas et ce genre de choses très sucrées. Et ce que nous dit aussi l'odeur, c'est que pour bien commencer la journée, pour commencer de manière active et mettre en place la machine le matin, il faut prendre un petit déjeuner, même très léger, en particulier pour les gens qui sont des couche-tard, qui sont des oiseaux de nuit. Souvent, quand on a un oiseau de nuit, on n'a pas faim le matin quand on se réveille, mais il nous conseille pour avoir plus d'énergie, bien de prendre un petit repas, très léger, voilà, pas quelque chose qui va nous alourdir. Et puis pourquoi pas aussi sortir de chez soi et marcher 15 minutes pour vraiment mettre en place la machine pour les gens qui ne sont pas du matin. Voilà le conseil qu'il donne. Et il conseille aussi de manière générale de manger légèrement plusieurs fois des petits repas au cours de la journée. Bon, ça correspond pas forcément à ce que d'autres vont conseiller par rapport au jeûne, par rapport à la santé, etc. Mais en termes de gestion énergétique, si vous voulez une énergie relativement stable au cours de la journée et qui correspondent à vos différentes oscillations où vous allez avoir des hauts et des bas, eh bien il conseille d'avoir plutôt 4 ou 5 repas petits au cours de la journée. Ensuite, physiquement, donc il nous conseille de pratiquer la marche le matin quand on se réveille si on a une faible énergie le matin. Et de manière générale, ce qu'il nous conseille, c'est d'avoir des efforts physiques courts mais intenses et de pratiquer en fait le fractionné ou le HIIT, qui est en fait ce type d'entraînement avec des phases très intenses d'efforts et des phases ensuite de repos. C'est en fait tout simplement le sprint, hein. On va sprinter, puis on va s'arrêter, puis on va resprinter, on va recommencer à sprinter. Et pratiquer en fait tous les sports qu'on va faire de cette manière-là. Parce que déjà c'est beaucoup plus efficace en termes de bienfaits pour votre santé, en termes d'amélioration de vos capacités physiques aussi. Et ça correspond au rythme qu'on veut essayer de créer pour améliorer cette oscillation dans notre corps. Et aussi, c'est une manière de faire qui va moins vous gêner dans votre vie de tous les jours si votre métier c'est pas d'être un sportif. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que cette manière de faire du sport, le fractionner, il faut la comprendre et s'en servir comme modèle pour notre travail de manière générale. Et aller aussi dans le travail vers cette manière de travailler, où on va travailler peut-être 10, 20, 30, 40 minutes, enfin maximum 90 minutes, et puis ensuite prendre des longues pauses, et puis ensuite recommencer comme ça à travailler en sprintant. Et avoir cette manière de travailler toujours très intense, mais par contre beaucoup moins longue que la plupart des gens, et avec beaucoup plus de pauses que ce que la plupart des gens font habituellement. Ensuite aussi, ce qu'il conseille au niveau de la gestion d'énergie, eh bien, c'est simplement de faire une sieste par jour, au moins, peut-être plus si nécessaire. Et il rappelle en fait que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de manière générale, la définition de ça, si jamais vous vous le demandez, si jamais c'est pas un concept clair pour vous, lui, la définition qu'il en donne, c'est la définition physique en fait de la chose, c'est-à-dire que l'énergie, c'est l'interaction entre l'oxygène et le glucose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous donne de l'énergie, fondamentalement, avant même l'aspect psychologique, c'est le fait de respirer et de manger. Donc il ne faut surtout pas mettre ces deux points de côté. Surveiller son alimentation pour avoir une alimentation qui nous rend énergisés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit tester par soi-même aussi, pour bien le comprendre. Pas prendre trop d'aliments lourds, pas trop de repas lourds, etc. Et puis, effectivement, apprendre à respirer, à bien respirer à travers le sport, c'est quelque chose qu'on apprend aussi assez naturellement. Et c'est les deux points vraiment fondamentaux pour gérer notre énergie, cet aspect physique. Voilà, maintenant si vous avez bien compris la gestion physique de l'énergie, on va passer à la deuxième étape qui est l'énergie mentale. L'amélioration de notre énergie mentale, elle repose sur deux piliers qui sont le fait d'avoir des pauses mentales régulières et le fait d'utiliser la pensée positive. Ce que nous conseille l'auteur, l'image qu'il nous donne, c'est d'essayer de travailler et de penser comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, donc quelqu'un d'incroyablement connu pour sa créativité, même sa productivité, puisqu'il a fait énormément de choses dans sa vie, dans des domaines complètement différents, eh bien, Léonard de Vinci avait une manière de travailler qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la productivité de manière générale aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de pauses. Il pouvait travailler longtemps et avoir des moments où il était très concentré. Mais il prenait beaucoup de pauses au cours de sa journée, il pouvait faire une peinture et puis ensuite marcher, faire autre chose totalement et revenir à sa peinture plus tard. Et ça, c'était sa manière d'être créatif, c'était sa manière, selon lui, de poser un regard constant, stable, détaché et sage sur son propre travail, de ne pas être trop subjectif et d'avoir un avis objectif sur son propre travail. Et puis aussi, marcher, prendre des pauses, regarder ailleurs, c'est un moyen d'avoir de nouvelles idées. Un conseil que donnait l'équipe de Tony Schwartz pour aider les gens à gérer leur énergie, une question que son équipe posait souvent à ses clients, c'était la suivante. Où est-ce que vous avez le plus d'idées? Dans quel lieu vous avez le plus d'idées? Ça, c'est une question primordiale. Est-ce que vous avez le plus d'idées sous votre douche, quand vous marchez dehors dans votre rue, quand vous allez au parc, quand vous êtes dans votre lit, quand vous lisez, quand vous êtes avec vos amis, peu importe. Dans quel moment, où est-ce que vous avez le plus d'idées? Eh bien ça, vous devez y aller, cet endroit-là, vous devez y aller plus souvent. Cette activité qui vous permet d'avoir le plus d'idées, vous devez la faire plus souvent. Parce que c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir plus d'idées. Et ces moments de repos mentaux sont extrêmement importants en termes de gestion de votre énergie. Ils nous semblent secondaires et sans importance, mais ils sont extrêmement importants. Parce qu'en fait, il y a plein de moments de la journée où on ne travaille pas, où on a l'impression de ne pas être productif, entre guillemets. Mais en fait, dans ces moments-là, souvent, on pense en arrière-plan. Dans le livre, l'expression en anglais, c'est « thinking aside ». Je traduis ça à peu près par « penser en arrière-plan ». Eh bien, quand on pense en arrière-plan, quand on pense sans vraiment être en train de penser, parce qu'on travaille pas et qu'on est juste en train de prendre sa douche, parce qu'on est juste en train de se balader, parce qu'on est juste à une terrasse de café, eh bien, ces moments-là sont des moments où on a le plus de créativité. Et augmenter le nombre de moments dans la journée comme ça, ces moments où on pense en arrière-plan, c'est primordial, nécessaire pour avoir plus d'énergie de manière générale. Et évidemment, les idées qu'on a pendant ces moments-là peuvent nous motiver à être plus productif, à travailler mieux, et il faut en avoir un maximum. Ensuite, un autre point important sur la question de la gestion de l'énergie mentale, c'est l'importance des pensées positives. Il y a un truc qu'on remarque, c'est que les gens qui ont beaucoup de pensées positives ont tendance à pas forcément être plus performants, mais en tout cas être plus endurants, à durer plus longtemps dans leurs activités. C'est visible d'abord chez les sportifs. On sait que les sportifs jeunes qui viennent d'arriver dans leur domaine sont pas forcément plus performants quand ils sont plus positifs. Des fois, ça peut être l'inverse. Il y a des sportifs qui sont très énervés, très négatifs, très colériques, etc. Mais par contre, ce qu'on voit très bien, c'est que ceux qui durent longtemps, ceux qui vont faire du sport pendant longtemps et avoir une longue carrière, eux, ça va être les plus positifs. C'est eux qui vont avoir les émotions et les pensées les plus positives de manière générale. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai pour votre longévité d'un point de vue travail, sport, etc. Mais c'est aussi vrai pour votre longévité en tant qu'humain, quoi, pour votre espérance de vie. Il y a des études qui montrent ça, que les gens qui ont plus de pensées positives vivent plus longtemps en général. Notamment, il y a une étude qui a été faite sur plusieurs nonnes qui rentraient dans un couvent, qui rentraient dans un couvent à l'âge de 20 ans. Et on a remarqué que celles qui rentraient, qui tenaient un journal dans lequel elles mettaient plus de pensées positives, plus d'idées positives, eh bien elles vivaient plus longtemps, elles avaient moins de risques d'être touchées par Alzheimer, et à tout moment, elles avaient deux fois moins de risques de mort à tout âge que les nonnes qui rentraient dans le même couvent, qui, elles, avaient beaucoup plus de pensées négatives qu'elles tenaient dans leurs journaux. Donc c'est vraiment une question de longévité sur tous les plans d'avoir des pensées positives. Et l'énergie, il faut le préciser, c'est pas seulement avoir des pics intenses de travail, c'est aussi une question d'endurance. Donc pour avoir plus de pensées positives, ce que nous conseille l'auteur, c'est simplement de tenir un journal où tous les jours on va traduire les différentes menaces qu'on a vues pendant la journée en opportunités et traduire les différents problèmes en solutions. On va faire cette conversion entre les choses qu'on a vues de manière négative et puis simplement écrire à la fin de la journée, écrire eh bien, comment on pourrait voir de manière positive, comment ces trucs dangereux, effrayants peuvent être vus comme des opportunités, comme des moments de grandir, comme des obstacles à traverser pour être un peu plus fort. Voilà pour la partie de l'énergie mentale, on va passer maintenant à la partie suivante sur l'énergie émotionnelle et comment avoir plus de flexibilité à ce niveau-là et mieux gérer nos relations. Le troisième type d'énergie qu'on peut améliorer pour avoir plus d'énergie de manière générale, c'est donc l'énergie émotionnelle, qui est très liée au rapport qu'on va avoir avec les autres. Ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il faut apprendre à avoir des relations avec les autres qui vont nous permettre de renouveler notre énergie. Avoir des relations, notamment authentique, le plus authentique possible, et aussi le plus profond possible. C'est-à-dire que souvent, les gens qui vont manquer d'énergie sont des gens qui vont être trop isolés, qui vont pas avoir suffisamment de gens autour d'eux pour les soutenir, ou alors des gens qui vont peut-être pas faire suffisamment de nouvelles rencontres, ce qui va nous donner l'énergie aussi en matière d'émotion, c'est le fait d'avoir un certain renouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être dans un nouveau cercle social. Souvent ça va nous booster en énergie très rapidement et très efficacement. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas négliger. Et puis aussi, néanmoins, être capable d'avoir des moments où on va passer plus de temps seul, on va faire des choses pour soi-même et pas pour les autres. Être capable d'alterner en fait entre ces deux manières d'être, avec les autres et un peu avec soi, c'est ça qui nous permet de renouveler notre énergie émotionnelle. Et le conseil aussi, pour revenir sur la question de passer du temps avec les autres, de donner du temps aux autres. Il prend l'exemple d'une de ses clientes qui a commencé, pour avoir plus d'énergie, elle a commencé à donner des cours de langue à des personnes en difficulté autour d'elle. Et ça, paradoxalement, ça peut sembler être un truc qui va vous rendre beaucoup moins productif, et vous faire perdre du temps. Mais en fait, dans le cas de cette cliente, c'était très efficace puisque ça lui permettait d'avoir plus d'énergie émotionnelle, plus d'énergie positive et d'être plus efficace dans tous les autres domaines. Donc, si vous comprenez en fait avec cette question de l'énergie émotionnelle, c'est que il s'agit effectivement d'aller vers les autres, il s'agit aussi de faire des choses vers soi, mais c'est qu'il s'agit en fait surtout de flexibilité. Pour bien gérer ses émotions, il faut être capable non pas d'avoir que des émotions positives ou des émotions de courage, de passion, de confiance, etc. Mais simplement être capable d'accepter le panel d'émotions, tout le spectre d'émotions qui va nous traverser. Souvent, ce qui nous manque en termes d'énergie émotionnelle, c'est de la flexibilité. Et pour ça, l'auteur parle de valeurs grecques, de valeurs des stoïques, qui valorisait non pas seulement, comme je disais, la confiance, la passion, la spontanéité et le courage, mais qui valorisait toujours des vertus opposées. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être confiant et humble. Il faut à la fois être courageux et prudent. Il faut avoir de la passion, passion peut-être pas exactement, mais en tout cas une grande motivation, et en même temps avoir une forme de sagesse et de détachement. Il faut avoir de la spontanéité et de l'authenticité, mais en même temps, il faut avoir du self-control et de la discipline. La bonne gestion de ses émotions, c'est ça. C'est être capable d'aller de l'un à l'autre, d'avoir plus de flexibilité. Quand on est capable de faire ça, on a plus d'énergie émotionnelle. Et c'est une dimension extrêmement importante de l'énergie de manière générale. Dernier point sur cette question d'énergie émotionnelle, c'est que souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait l'argent. C'est ce que nous dit l'auteur, en tout cas. Dans le sens où avoir une meilleure gestion de ses émotions et donc plus de bonheur, c'est quelque chose qui va vous rendre plus productif, plus créatif et qui va vous permettre, eh bien, pourquoi pas, de mieux gagner votre vie. Voilà, c'est le conseil de l'auteur. On passe maintenant au dernier point, quatrième dimension de la gestion de votre énergie, qui est la dimension spirituelle. La quatrième dimension de l'énergie, c'est l'énergie spirituelle, qui repose sur deux piliers, que sont le pourquoi et l'authenticité. Dans les périodes où on va avoir des émotions négatives, on va être particulièrement dans une tempête, face à des difficultés, face à beaucoup d'obstacles, eh bien la simple gestion meilleure de nos émotions, de notre mental, de notre physique ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus, et ce quelque chose, c'est l'énergie spirituelle, c'est le sens et le pourquoi de nos actions. Donc il faut faire quelque chose qui a du sens pour nous par rapport au sens que l'on s'est fixé par rapport à nos valeurs. Alors cette énergie spirituelle, elle a deux dimensions, on peut l'explorer de deux manières différentes. La première, c'est d'agir pour autre chose que soi, d'agir pour les autres, aller au-delà de son ego, donc se rendre utile aux gens autour de nous, à l'humanité ou à la planète. La deuxième voie de l'exploration spirituelle, de l'énergie spirituelle, pardon, c'est d'agir de manière intègre par rapport à nos valeurs, de respecter autant que possible nos principes, et de ne jamais en dévier. Alors pour savoir si vous avez cette motivation supérieure, cette énergie spirituelle, et ce sens dans votre vie, dans les actions que vous faites tous les jours, je vais vous poser trois questions, et vous allez répondre par un chiffre, par une note, qui va de 1 à 10. Donc je vais vous poser ces trois questions, et voilà, vous allez vous donner trois notes que vous allez noter. À quel point est-ce que vous êtes enthousiaste de commencer à travailler le matin ? À quel point est-ce que c'est vrai que vous êtes enthousiaste le matin en allant au travail ou en commençant à travailler ? Et quelle note vous donneriez à ça de 1 à 10. La deuxième question, c'est à quel point vous faites ce que vous faites pour le plaisir et non pas pour ce que ça vous rapporte. Notez-vous de 1 à 10 pour savoir si si vous notez à 1, c'est que ce que vous faites, c'est uniquement pour obtenir un résultat, obtenir quelque chose. Et si vous notez à 10, c'est que ce que vous le faites à 100% pour vous-même. Et peu importe le résultat. La troisième question, c'est à quel point vous respectez vos propres valeurs. Est-ce que vous êtes fidèle à elles à 100%, dans ce cas-là vous avez 10, ou est-ce que vous les respectez finalement assez peu, dans ce cas-là vous avez 1. Bon, vous allez noter vos 3 notes, et vous allez faire la somme de ces 3 notes, de 1 à 10. Et si la somme totale est supérieure à 27, c'est que ce que vous faites dans votre vie de tous les jours a beaucoup de sens, vous avez beaucoup d'énergie spirituelle. Si par contre c'est inférieur à 22, bah c'est que dans votre journée, vous avez beaucoup de comportements automatiques, un peu par habitude, et qui sont finalement peu motivés dans l'ensemble. Et il faut faire en sorte d'avoir des actions, d'avoir des choix de vie qui vont augmenter les notes à ces 3 questions. À quel point vous êtes enthousiaste de commencer à travailler le matin, à quel point vous faites ce que vous faites pour le plaisir et non pour ce que ça vous apporte, et à quel point vous respectez vos propres valeurs. Si vous êtes capable de vraiment respecter vos propres valeurs et d'être enthousiaste et de faire ce que vous faites pour vous-même, eh bien vous aurez plus d'énergie spirituelle et en fait plus de motivation intérieure. C'est-à-dire basée sur vos propres valeurs et non sur la réponse du monde extérieur. Et ce qu'on voit dans plusieurs études sur le sujet, dans le livre, c'est que la motivation intrinsèque qui part de vous-même, elle est beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace sur le long terme que la simple motivation d'obtenir quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit de la notoriété, de l'argent ou ce genre de choses. La motivation intrinsèque est bien plus saine et bien plus durable sur le long terme. Un autre point pour augmenter notre énergie spirituelle, quelque chose qui consomme énormément notre énergie, c'est le mensonge ou le fait de cacher des choses. La vérité, le fait d'avoir une relation sincère, authentique avec les gens autour de vous et avec tout le monde, c'est quelque chose qui va libérer énormément d'énergie en vous. Souvent les gens qui ont peu d'énergie, c'est des gens qui vont beaucoup contenir, beaucoup retenir de choses, et ça a l'air de ne pas consommer d'énergie comme ça, ça a l'air d'être rien, mais en fait si, ça consomme énormément d'énergie de manière inutile. Les non-dits, les choses refoulées, les mensonges vous bouffent énormément d'énergie et il faut les éliminer autant que possible. Maintenant qu'on a vu comment avoir plus d'énergie spirituelle, donc à travers le fait d'agir dans des actions qui ont du sens, d'agir pour autre chose que soi et d'être le plus authentique et honnête possible, on va voir la dernière partie du bouquin où on étudie différentes méthodes pour créer des habitudes de manière durable. À la fin du livre, l'auteur nous conseille plusieurs techniques pour créer des habitudes sur le long terme et pour les maintenir, donc on revient un petit peu aux bases de la création d'habitudes. Un premier conseil qu'il donne, c'est que de manière générale, il vaut mieux faire quelque chose que de ne pas le faire. En fait, quand on veut remplacer une mauvaise habitude, que ce soit fumer ou prendre de mauvais aliments, etc., il dit qu'il vaut mieux les remplacer par de nouvelles actions plutôt que d'essayer tout simplement de les arrêter, ce qui ne marche quasiment jamais. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plus en détail dans le livre The Power of Habits, où on voit vraiment ce cycle de création d'habitudes avec les indices, les routines et les récompenses. Donc je vous invite à écouter ça si vous ne l'avez pas encore écouté. Ensuite, ce qu'il nous dit aussi, c'est que pour créer une habitude, ce qu'il faut, c'est quantifier au maximum, mesurer au maximum ce que l'on fait dans la journée, surtout les 30 premiers jours. Pour créer une habitude, il faut vraiment la créer de manière intransigeante, de manière très fixe, de manière la plus ferme possible pendant un mois. Ça, c'est un truc que j'ai déjà énormément exploré, auquel vous êtes habitué, mais voilà, savoir que 30 jours peuvent suffire, en particulier si pendant ces 30 jours, vous avez un emploi du temps extrêmement fixe qui va vous permettre de créer cette habitude sur le long terme. Donc cette question en fait, de l'intransigeance, il revient dessus beaucoup dans le livre, sur le fait que c'est important de créer des habitudes énergétiques, même quand elles semblent nous faire perdre du temps. Il y a cet exemple qui est pris, qui est celui d'un patron d'une grosse boîte qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail tous les jours, et qui décide de se fixer de manière intransigeante toutes les semaines 2 moments de pause. Le mercredi à 1h, il va faire du tennis pendant 1h, et le vendredi à 1h de l'après-midi, il va faire du basket pendant 90 minutes. Et ça, il le fait toutes les semaines sans aucune exception, c'est une priorité absolue. Il ne la rate jamais. Pourquoi ? Parce que son niveau d'énergie en dépend. Et ces habitudes énergétiques, il faut absolument les considérer comme primordiales et les créer de manière extrêmement ferme pour le garder sur le long terme. Le dernier conseil sur la question du changement d'habitude, c'est de toujours faire un seul changement à la fois. Pas essayer de tout changer en même temps, Mais prendre une habitude, une mauvaise habitude, puis la changer, elle, se concentrer sur elle pendant une petite période, pendant un mois par exemple, et ensuite passer à autre chose et conserver cette bonne habitude. C'est maintenant la fin du résumé du livre The Power of Full Engagement de Tony Schwartz. Alors c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, où j'ai appris pas mal de choses. Je le recommande, je dirais, moyennement. C'est pas forcément dans les priorités des livres à lire si vous avez bien écouté ce podcast. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est écrit dans un style très... comment dire, c'est beaucoup d'histoires de personnes, et c'est beaucoup de petites histoires de personnes qui sont séparées. Il pourrait vraiment être réduit à un petit nombre de leçons. Vraiment cette idée principale dans ce livre-là. C'est cette question d'éviter la linéarité et d'être le plus d'ossier autant que possible et de comprendre ces quatre dimensions de l'énergie. Le fait que l'énergie spirituelle et physique est sous-utilisée, la mentale et émotionnelle est trop utilisée. Bon, quand on a compris ça, on a vraiment compris le principal du livre. Après voilà, c'est plein d'exemples de petites histoires de personnes dans le monde de l'entreprise, beaucoup, dans des grosses boîtes qui vont essayer d'avoir plus d'énergie, plus de productivité, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Maintenant, si c'est un sujet qui est vraiment central pour vous, l'énergie, et que vous êtes vraiment en manque d'énergie, bon, là, je vous conseille, ça fait partie, c'est le livre principal à lire sur ce sujet-là. Mais sinon, voilà, je le recommande moyennement, tièdement, on va dire. Il y a un autre concept qui est pas dans ce livre-là, mais qui est expliqué dans d'autres livres de Tony Schwartz, qui est celui de la zone de zombitude. C'est-à-dire cette zone où on travaille sans être vraiment motivé, sans être vraiment très énergisé. C'est un truc très important dans les conseils qu'il donne et qui m'ont beaucoup servi aussi. Quand vous êtes en mode zombie, quand vous travaillez en mode zombie, arrêtez. Arrêtez tout de suite, c'est une règle que vous devez vous fixer. Faites une pause, reposez-vous, et puis reprenez, recommencez à travailler après de manière intense, mais ne travaillez jamais en mode zombie, en mode automatique, sans avoir de vraie motivation. Mieux vaut ne rien faire du tout. Alors, faut pas regarder la télé, faut pas aller sur Facebook pour vous reposer, hein, évidemment, mais juste ne rien faire, c'est un bon moyen de sortir de cette zone zombie et être productif. Donc voilà les différents conseils que je voulais partager avec vous sur cette question d'énergie qui est vraiment centrale. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous allez appliquer, ce que vous considérez utile, et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé de livre.